Radio 3D.
La France a bien du mal à trouver une solution à ce problème.
À partir de vendredi prochain, les choses vont sûrement changer.
Attendez une minute là.
Bonjour à vous. Un autre monde possible, le rendez-vous mensuel d'Attaque Pays d'Arles, tous les premiers mercredis de chaque mois de 18h10 à 18h40 sur 3DFM. Un autre monde possible, c'est possible.
Moins 04 58 96 71 72 75 02 14 45 04 Deutsche Bank 22.
Eh bien, bonjour et bienvenue sur les ondes de 3DFM pour notre émission mensuelle d'Attaque Pays d'Arles. Bonjour Jérôme.
Et bonjour Sylvie.
Alors nous allons commencer par une mauvaise nouvelle. Au testé sur le chantier du barrage de Sivens, donc dans le Tarn, dans la nuit du 25 au 26 octobre, un jeune homme de 21 ans, Rémi Fraisse, est décédé lors d'affrontements avec les gendarmes, victime d'une grenade offensive. Le samedi 25 octobre, c'était entre 2000 et 5000 personnes qui s'étaient rassemblées dans la forêt de Sivens pour fêter le premier anniversaire de l'occupation du site. Il s'agit de sauver une zone humide boisée menacée par le projet d'un barrage visant l'irrigation intensive pour une poignée d'exploitants agricoles, tout ça à un coût faramineux. Les travaux de déboisement avaient commencé le 1er septembre 2014, et ce malgré la présence de plusieurs centaines de militants. Avec la mort de Rémi Fraisse, les travaux ont été officiellement suspendus le 31 octobre. Donc c'est une information que vous avez pu lire partout, entendre à la radio, à la télé. Mais aujourd'hui, Attaque Pays d'Arles souhaite décrypter la cause initiale de cette situation de mise en danger qui a abouti donc à la mort de Rémi.
Oui Sylvie, tu souhaitais nous parler des grands projets inutiles imposés comme celui du Testé ou de Notre-Dame-des-Landes, pour les plus emblématiques. Pourquoi qualifier ces projets inutiles comme imposés d'ailleurs?
Parce que si t'es pas d'accord, tu subiras une bataille médiatique, judiciaire, une campagne de dénigrement et tu auras aussi donc du répressif, comme au Testé, comme à Notre-Dame-des-Landes ou en Italie pour les opposants au projet de la ligne à grande vitesse Lyon-Turin. Les grands projets sont d'autant plus imposés qu'ils sont inutiles, donc c'est vraiment l'inverse proportionnel. Bref, on te fait comprendre que t'as pas le choix et par la force si tu résistes trop.
Bon alors, c'est quoi un grand projet inutile?
Alors en règle générale, c'est un projet d'infrastructure surdimensionné, dont personne ne veut, sauf une poignée d'élus, alors si possible locaux les élus, qui a la particularité de coûter un argent public fou qui atterrira immanquablement dans les poches de partenaires privés, qui s'affranchira de la consultation publique ainsi que des lois d'aménagement du territoire, et qui détruira en se faisant une zone protégée ou d'intérêt écologique. Pour ce dernier point, on observe le même principe que celui appliqué par la colonisation, c'est-à-dire celui de la terre vierge, situation pour laquelle il n'y a pas de droit acquis, pas de droit des occupants. En gros, c'est quand même une machine à faire du fric, tant pis pour les dégâts.
Oui, Gus Macia, lors du deuxième forum social européen du 8 juillet 2012, à propos des grands projets inutiles imposés, donnait un éclairage qui permettait de mieux comprendre en quoi ces grands projets démasquent la manière dont s'organisent nos sociétés. Exclusivement tournée vers la prédominance du capital, une dictature du pouvoir financier avec des profits de plus en plus importants et la survie d'une démocratie de basse intensité qui en résulte.
Oui, alors pour poursuivre et paraphraser Gus Macia, dans cet ordre d'idées, les grands projets inutiles, ils sont pas inutiles pour créer des marchés et des profits. Ils se suffisent à eux-mêmes, leurs justifications sont financières. On l'a vu dans les émissions précédentes à propos du TAFTA, si tout est centré autour du capital et des investissements, c'est pas le service qui sera déterminant, mais son rendement financier. Peu importe ensuite le type de projet développé. Avec les grands projets inutiles, on obtient et le rendement du capital et la caution des pouvoirs publics.
Mais justement, comment cela se fait-il que les pouvoirs publics, donc nos élus, soient dupés par de tels projets, alors que leurs électeurs y sont majoritairement opposés?
Ah ça, il y a certainement un côté mégalomanie à prendre en compte. Il faut aussi prendre en compte que les collectivités territoriales sont concurrentes entre elles. Et avec les lois de décentralisation, les baronnies locales disposent maintenant de gros moyens financiers qui attisent les appétits de la finance, alors qu'en parallèle, ils sont moins armés pour se défendre. Les promoteurs font miroiter des emplois à la clé, un projet responsable ou écolo-compatible avec un gazon et puis, je sais pas, de panneaux solaires sur le toit, une jolie plaquette aux alouettes, minorant les coûts des bâtiments et surévaluant les recettes attendues. C'est certainement très beau sur papier glacé. Et puis, ça remplit un peu le vide des programmes politiques, parce que si on est pieds et poings liés à la finance, je vois pas très bien quel projet de société on peut bâtir. Bon, ben, quant aux électeurs, une fois le vote acquis, hein, rares sont les élus qui vont rendre des comptes sur leur mandat, quand même.
Oui, et tu dis absolument rien des magouilles ou des dessous de table possibles. Pourtant, dans le cas de la LGV Lyon-Turin, il y a eu des preuves de corruption.
Oui. Deux anciens responsables de la LTF, Société Lyon-Turin Ferroviaire, donc c'est une filiale du réseau ferré de France et de son homologue italien, ouais. Eh bien, le directeur général et le directeur des travaux, ils ont été mis tous les deux en examen et condamnés à de la prison en première instance en Italie, donc pour trucage d'appel d'offres. Et depuis, les Amis de la Terre donc observent que, bah, je cite, hein, les comptabilisations troublantes persistent dans les comptes de LTF. Alors, il y a 10,322 millions d'euros pour une galerie jamais creusée à Venaus en Italie, donc on ne sait pas où ils sont passés. Hein. Et malgré les interpellations de l'association de lutte contre la corruption Anticor, voilà, bah, LTF ne répond pas.
Oui, puisqu'on parle des Amis de la Terre, chaque année au mois d'octobre, novembre, les Amis de la Terre proposent les prix Pinocchio, de décerner des prix aux plus grands menteurs du développement durable. LTF est nominé dans la catégorie main sale, poche pleine. Vous pouvez voter en ligne pour les prix Pinocchio jusqu'au 17 novembre. Il y a un lien sur le site d'Atax, ça doit être le troisième article en dessous de la une.
Voilà. Et sinon, pour ta question, donc, de corruption, en France, on parle surtout de conflits d'intérêts. Hein. Au testé, donc, il y a Monsieur André Cabot, qui est l'administrateur de la compagnie d'aménagement des coteaux de Gascogne. Donc, je l'appellerai CACG, ça sera plus simple, qui est une structure interrégionale qui a mené les études sur le barrage et est censée le construire et l'exploiter. Donc, il cumule deux autres casquettes. Vice-président du Conseil général du Tarn, en charge de l'eau et de l'agriculture, et administrateur aussi de l'agence de l'eau à Dour-Garonne. Donc ça, c'est la finance à 50% le projet. Coïncidence troublante aussi, avant d'être ministre de l'Environnement, Monsieur Philippe Martin, donc, était président du Conseil général du Gers. Et à ses côtés, donc en tant que vice-président, il avait Francis Daguzan, mais qui était aussi surtout président de la CACG. Et l'actuel directeur de la CACG, donc Alain Villocel, est également vice-président de la commission Programme, Finance et Évaluation de l'Agence de l'eau à Dour-Garonne. À Notre-Dame-des-Landes, donc c'était plus rigolo, Bernard Agelstein, je ne sais pas si je prononce bien, l'ancien préfet de Loire-Atlantique et de la région Pays de la Loire, qui pilotait localement le projet d'aéroport en collaboration avec la Direction générale de l'aviation civile, est aujourd'hui en charge des concessions de... il travaille pour le groupe Vinci en charge de l'aéroport, quoi.
Oui, j'ai quand même l'impression qu'on pinaille un peu. C'est quoi la différence entre un conflit d'intérêts et une corruption ?
C'est que, attends, en droit français, le conflit d'intérêts n'est pas réellement un délit, quoi. Il faut prouver qu'il y a eu une prise illégale d'intérêts ou un trafic d'influence. Là, à ce moment-là, ça deviendrait de la corruption. Alors, en principe, hein, c'est pas parce que ça peut corrompre, c'est pas non plus parce qu'il y a d'énormes sommes d'argent en jeu que cet argent va circuler ou qu'il y aura des pressions pour faire aboutir les projets. En résumé, hein, c'est pas parce que je dépose un gros paquet d'argent sur la table et que j'éteins la lumière que des gens vont se servir.
Ouais, non, je m'en mets plein les poches, je suis corrompu, j'aide un ami à remporter un contrat, c'est du conflit d'intérêts. Bon, ouais, d'accord. Mais enfin, gardons la présomption d'innocence. Mais si on peut pas toujours démontrer la prise illégale d'intérêt, il y a quand même des points assez troublants concernant le trafic d'influence. Tu vas m'opposer qu'on peut pas le prouver non plus, mais que penser du fait que ces grands projets inutiles se montent souvent en dépit de la loi, ou du moins avec un certain laxisme concernant les études d'impact, les permis de construire, ça va souvent même jusqu'à l'encontre de l'avis des experts.
Ouais, c'est vrai que c'est pas très clair tout ça. Hein. Alors, au testé, hein, le déboisement, c'est fait sans les autorisations préalables. Il n'y a pas non plus un respect de la loi sur l'archéologie préventive, alors qu'il y a des silex hein, sur zone. Bon, c'est pas grave. Les études d'impact réalisées par la CACG ont été jugées insuffisantes par le Conseil scientifique régional du patrimoine naturel, puis aussi par le Conseil national de protection de la nature. Même l'ONEMA, l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques a indiqué que, je cite, les mesures de correction et de compensation restent insuffisantes et que le maintien du bon état chimique et écologique de l'eau en aval immédiat de la retenue ne semble pas garanti. C'était pareil pour Notre-Dame-des-Landes. Hein. Les arrêtés préfectoraux publiés le 21 décembre 2013 faisaient état allègrement de dérogations sur la loi sur l'eau et puis aussi au déplacement d'espèces protégées, ce qui normalement est interdit. De plus, l'inventaire officiel qui avait servi à l'enquête publique avait bêtement oublié le campagnol amphibie. Bon, c'est une espèce protégée, hein, ce qui nous avait valu une mise en demeure de la Commission européenne en avril 2014 pour faiblesse des études de l'impact environnemental lors de la procédure d'autorisation du projet aéroportuaire.
Ah. Et alors ?
Alors rien. Les associations et collectifs portent plainte et puis s'épuisent dans des démarches judiciaires, mais ça n'a pas l'air de perturber le bon fonctionnement de l'État. Hein. Plus surréaliste encore, le tribunal d'Albi, qui s'est déclaré incompétent concernant le défrichement illégal du testé, a condamné le collectif d'associations environnementales qui portait plainte à 4 000 € d'amende pour saisine abusive.
Ouais, en gros, on est invité à fermer les yeux, à accepter des projets idiots dont on ne veut pas, et surtout ne pas déranger l'État avec nos bêtes questions de légalité. Et du côté de la démocratie, nous avons quand même notre mot à dire, non ?
Effectivement, oui. La consultation des citoyens est obligatoire et a été renforcée depuis les lois Bouchardot. Hein. Mais la démocratie participative, cher ami, c'est consultatif. Rouillebon, par exemple, près ou Roibon, hein, près de Grenoble, où une zone humide est menacée par la création d'un projet de Center Parks, les avis défavorables de la commission d'enquête publique Loi sur l'eau et du Comité national de la protection de la nature missionné par le ministère de l'Environnement n'ont pas été suivis. Vendredi 17 octobre, le préfet signait l'arrêté relatif à la destruction des espèces protégées, autorisait l'achat des terrains par Pierre et Vacances, le rachat par le Conseil général de l'Isère des routes et autres installations sur le site, et les travaux ont commencé le lundi 20 octobre.
Oui, mais ça concerne la démocratie d'État, la démocratie participative telle qu'inscrite dans les institutions. Il y a d'autres moyens de se faire entendre, par les médias, ce qui est limité vu la collusion actuelle avec les élus et le patronat, mais aussi comme on le voit dans les diverses zones à défendre, par la désobéissance civile.
Oui, mais bon, ce sera à tes risques et périls et pour un résultat aléatoire. Hein. L'occupation des acrobranchistes du parc Mistral n'a pas empêché Michel Destot de construire son grand stade des Alpes, qui, au passage, devait coûter 30 millions d'euros et en aura coûté 90, soit 3 fois plus. Alors il y en a qui comptent à 105 avec le parking inutilisé. Mais je vais revenir sur les propos de Gus Macia. Si c'est la finance qui domine le monde, la démocratie n'a plus sa place. Ou alors une démocratie de basse intensité pour gérer à minima quelques compétences locales ou les pouvoirs régaliens de l'État. La décision dans les grands projets inutiles revient à ceux qui ont le pouvoir et ont souvent déjà abdiqué devant les énormes intérêts en jeu. Alors, on va citer des exemples. Hein. La ligne LGV Lyon-Turin, c'est un projet initial de 8,5 milliards d'euros. Financé pour 35% par l'Italie, 25% par la France et 40% par l'Union européenne, qui peut-être ne financera pas parce que elle a dit que l'intérêt du projet, c'était pas terrible. Hein. Avec les dépassements observés, on parle aujourd'hui de 30 milliards d'euros. Le barrage de Sivens au testé, c'est 7,8 millions d'euros. Donc ça, c'est 100% financé par l'argent public. Notre-Dame-des-Landes, c'est un minimum de 556 millions d'euros, donc 43,3% de subventions publiques, mais les dernières estimations font état de 15 milliards d'euros. Autant dire que tu fais pas trop le poids. Hein.
Si je résume, à travers l'exemple des grands projets inutiles imposés, avec toutes nos difficultés à défendre les quelques espaces protégés et défendre une réelle utilité sociale au lieu des soi-disant projets d'intérêt public, on met le doigt sur les limites d'une démocratie à bout de souffle. Probablement déjà vendu au marché financier.
Ouais, l'intérêt public est bien remplacé par l'intérêt privé. Hein. À quoi servirait le nouvel aéroport de Notre-Dame-des-Landes alors que celui de Nantes-Atlantique est sous-utilisé, que le projet futuriste, comme le révèle le Canard enchaîné, serait de plus bien inférieur à l'existant ? À quoi servirait la LGV Lyon-Turin alors que la ligne actuelle entre Lyon et Turin, hein, qui traverse les Alpes par le tunnel de Fréjus, a été rénovée récemment en France comme en Italie, avec un tunnel élargi, des installations électriques modernisées ? Quelle est l'utilité publique de détruire des espaces naturels pour construire de telles aberrations ? Bah, faire du pognon, hein, quand même. Tous ces milliards engloutis alors qu'il manque pour le social, le culturel, qu'il faut serrer la ceinture parce qu'on a une dette à rembourser, qu'on pourra pas payer les retraites, qu'il faut combler le trou de la sécu. Ça me fait penser aux transgabonais, sauf que c'est pas en Afrique, mais chez nous.
Oui, bah, ce sont nos impôts quand même. C'est notre futur, notre vie en société, notre démocratie qui le bazar, notre planète aussi. On va pas se laisser faire. Pourquoi ne pas répondre à cette violence par une autre violence, tout aussi légitime, puisqu'il bafoue nos vies?
Ouais, certains sont tentés hein, par une riposte violente. Les Black Blocs, par exemple, hein, qui opposent les cocktails Molotov aux fumigènes et grenades offensives. Alors, c'est pas le chemin qu'on soutient à l'attaque. Hein, on soutient le courage des zadistes, la désobéissance civile et tout ce qui va dans le sens d'une démarche civique et pacifique. Mais si on comprend la cause de la violence, hein, puis même si on n'est jamais historiquement à l'abri de la nécessité d'une lutte armée, hein, nos convictions nous portent plutôt à défendre ardemment la démocratie. Notre travail est un travail de décryptage pédagogique parce qu'on continue à penser qu'une population informée, réellement informée, ne se laisse pas berner si facilement et est tout à fait en capacité de changer le système. Nous avons encore le pouvoir de demander des comptes à nos élus, voire de les virer si nécessaire, et envoyer promener ces grands promoteurs privés. Mais bon, ça sera pas possible à 100 dans notre coin. On doit d'abord convaincre le ventre mou qu'il n'agit pas dans son propre intérêt en laissant faire. Les grands projets inutiles imposés sont... pas que pour nous, un marqueur parce qu'il montre bien aux populations ce qui est en train de se passer. On n'est pas 100, ni 1000, on est tous concernés et on doit tous combattre ces projets imbéciles.
Oui, et comme le disaient les occupants de Wall Street, nous sommes les 99%.
Oui, bon, comme le dit Attac aussi, un autre monde est possible.
Elle aimerait que José Bové, retourne en prison, c'était le bon temps. Les fêtes devant la maison d'arrêt, c'était chouette, puis il lui manque plein de tocolans. Depuis que sa mère adhère à Attac, elle parle avec elle de paradis fiscaux, de la sortie de la guerre en Irak et de celle du prochain trio. L'été dernier, elle est allée faucher avec sa mère un champ de maïs transgénique. Quand elle a entendu dire « V'là les poulets !» elle a crié « Faut pas qu'ils en mangent, c'est toxique !» Pareil que pour être altermondialiste, c'est un peu trop jeune, à 7 ans et demi. 7 ans et demi pour être altermondialiste, c'est un peu trop jeune. C'est ce que son père lui dit. Là-bas. À tous les débats, elle amène du chocolat. Faut que la tablette fasse le tour de la table. Que tout le monde en mange, sinon ça sert à quoi? Si on partage pas, qu'il soit du commerce équitable. Elle n'aime pas trop Charlie Hebdo. Y'a trop de gros mots. Sa mère lui a dit de lire plutôt Le Monde Diplôme, mais là elle trouve les mots trop petits. Elle a rencontré un garçon super chouette dans une manif, c'est sa première histoire d'amour. Bon, d'accord, c'est un petit gros à casquette. Ouais, mais il ressemble trop à Michael Moore. Pareil que pour être altermondialiste, c'est un peu trop jeune, à 7 ans et demi. 7 ans et demi pour être altermondialiste, c'est un peu trop jeune. C'est ce que son père lui dit.
Et dernièrement, à la sortie d'un concert, on discutait avec des jeunes et on échangeait des souvenirs sur l'époque où nous, on avait leur âge. Et du coup, on s'est posé cette question, on s'est dit mais est-ce que c'était plus difficile ou pas de vivre à l'époque de la guerre froide ou à celle du réchauffement de la planète?
Sa mère lui explique qu'au rythme où on avance, on va détruire la planète, l'issue c'est la décroissance. Elle lui dit, maman c'est con, moi j'imaginais qu'on partage la richesse plutôt que la pauvreté. Comme sa mère n'achète plus que des produits qui respectent le droit et l'écologie, elle lui dit, ça sert à quoi d'être responsable s'il est hors la loi, sont jamais coupables. Elle lui dit, maman, maman, moi j'y comprends que dalle, si jamais on refuse la marchandisation, mais sur quoi va-t-on mettre une taxe internationale pour que les enfants sont casse-pieds avec leurs questions? Mais pareil que pour être révolutionnaire, c'est un peu trop vieux une fois passé 30 ans. Passé 30 ans pour être révolutionnaire, c'est un peu trop vieux. C'est ce qu'elle répond à ses parents. Et toc, eh oui. Et toc.
Eh bien, on va évoquer en deuxième partie d'émission un fait de société qui met à mal nos démocraties. En effet, d'affreux miséreux, même pas comme nous, débarquent par milliers dans nos villes et villages au cri repoussant de « Madame, s'il vous plaît ».
Ah, les Roms, peuple européen par excellence, ils cristallisent toutes les passions et les rejets. Même les pires ennemis d'hier se liguent aujourd'hui pour taper sur le Rom. Mais qu'est-ce qu'on lui reproche au juste?
Oula, plusieurs choses. On va bien sûr lui reprocher d'être pas français. On va lui reprocher d'être un voleur de poules. On va lui reprocher d'être sale et de laisser divaguer sa nombreuse marmaille. On va lui reprocher de venir pour toucher les allocs et vivre au crochet de la France. On va lui reprocher de ne pas chercher à s'intégrer. Et on va, surtout et finalement, lui reprocher d'être pauvre.
Et oui, c'est toujours le même problème, qu'ils viennent de Roumanie ou d'Afrique. Notre pays ne peut pas accueillir toute la misère du monde. De plus, avec l'Europe forteresse, on pensait avoir bâti des murs assez solides pour bien nous séparer des pauvres. Et paf, voilà qu'un pauvre débarque pour nous rappeler que des miséreux, il y en a aussi chez les riches.
Et oui, c'est ballot. Du coup, les mêmes, alors qu'ils n'ont jamais rien fait pour les pauvres en France et qu'ils ne feront jamais rien pour les aider, accusent les Roms de piller les maigres fifrelins de nos pauvres bien de chez nous. On oppose donc les pauvres entre eux. Alors, ce qui sera donné aux Roms, ce sera autant qui ne sera pas donné aux Français. Avec l'appui honteux de certains de nos élus et une presse aux ordres, c'est l'opinion la plus répandue. Alors il faut comprendre, quand on a du mal à finir ses fins de mois et mettre du beurre dans les épinards, on n'a aucune envie de partager sa pitance avec le voisin miséreux, donc qu'il parte.
Mais c'est un raisonnement biaisé par notre vision économiste du monde et capitulant devant les marchés financiers. L'argent existe, il n'est juste pas réparti et se concentre dans quelques mains. Ce n'est pas en tapant sur les Roms que notre sort sera changé, ni en bien ni en mal. C'est en mettant un coup d'arrêt à ce pouvoir de l'argent qui non seulement nous fait les poches, mais nous sommes en plus de nous battre entre nous. D'autre part, on n'éradiquera pas la misère en chassant les pauvres.
Ben non, c'est bien là le problème. Mais qui te fait dire qu'il y a une quelconque volonté d'en finir avec la misère ? L'accueil des Roms en France, et en Europe, montre plutôt le contraire et prouve qu'on n'est même pas solidaire. On chasse les victimes et puis on leur refuse aussi le titre de victime. Je te rappelle, ils sont sales, voleurs, viennent pour toucher les allocs, etc. Et voilà, la boucle est bouclée. Alors il y a bien sûr l'intérêt du diviser pour mieux régner. Et regarde ce Rome plutôt que ma politique sociale inconsistante. Il y a aussi les intérêts financiers du capitalisme qui se nourrit des inégalités. Accepte mes conditions, alors toutes, parce que tu es peut-être le Rome de demain.
Oui, et concrètement, donc on les expulse de squat en squat, on bulldozerise leurs maigres biens, on vote des arrêtés municipaux anti-mendicité. Bref, on ne règle jamais le problème, on le repousse. Certains proposent des solutions, mais plutôt expéditives, qui ne mettent pas vraiment en valeur notre République, ni leurs auteurs. À vrai dire, la majorité ne propose pas grand-chose, jouant au ping-pong entre ce qui devrait être le rôle de l'État et ce qui devrait être du ressort des mairies.
Oui, on va regarder Gardanne, qui a proposé une solution avec un contrat d'insertion et d'accueil de 12 familles roms installées depuis octobre 2012. Ça se passe sur le carreau du Puy Z. Le 20 décembre 2013, le maire de Gardanne, Roger May, expliquait sur le site de la ville « Il n'y a que deux solutions. Soit ils sont sur la commune de façon désorganisée, sur des terrains privés et on ne maîtrise pas leur nombre, soit on encadre ce qui se passe et on maîtrise. C'est le choix qui a été fait. » Alors, en parallèle, il faut préciser qu'à Aix-en-Provence, la ville avait entrepris à grands frais, donc environ 500 000 euros, le fait de chasser les Roms qui étaient installés sur la commune. Aujourd'hui, il y a 7 campements à gérer.
Oui, et à Arles, nous avons actuellement 2 campements à peu près suivis. Un à Trinquetail avec une 50aine de personnes et un plus petit aux Aliscans avec une 10aine de personnes. Tous viennent du même village et du même clan, celui des Montreurs d'Ours. Ils ont déjà été expulsés, ont dû quitter des terrains squattés 5 ou 6 fois. Le camp des Aliscans est en cours d'évacuation. Le camp de Trinquetail est actuellement débordé par des Roms expulsés de Marseille.
Il y a un collectif de soutien, dont Attaque Pays d'Arles fait partie, qui s'était créé le 4 novembre 2013, donc joyeux anniversaire, c'était il y a tout juste un an. Il travaille avec les familles roms qui souhaitent s'investir sur Arles, alors en lien avec les institutions. Il travaille à leur installation dans de bonnes conditions, qu'il s'agisse du logement, d'un suivi de santé ou d'un accompagnement dans des démarches administratives. Alors pour l'instant, tous les enfants des familles suivies ont été scolarisés. Il y a quelques adultes qui ont trouvé un travail, donc d'abord en intérim et maintenant en CDD. Et pour le reste, en un an, force est de constater que rien n'a changé. Ils sont tous et toujours expulsables.
Possédons un cabanon tout près de Niolo. Le samedi soir, on prend le train avec un train, on est tous en train. Et dans le wagon de troisième, on galège avec les voyageurs. La bonne humeur est notre emblème, nous avons du soleil dans le cœur. Dans ma petite calanque, au bord de mer sous le ciel bleu. Dans ma petite calanque, chaque dimanche on est nombreux. Tous en famille dans l'eau qui scintille, on fait des jours secs. Puis on se flanque une rousse à pétanque et sous les grands pecs, le pastis vient à point. Dans ma petite calanque, au bord de mer sous le ciel bleu. Dans ma petite calanque, on chante, on rit, on est joyeux. Mais les pescadous sur les rochers se sont perchés, ils sont bien pêchés. Olive et Titem partis plus tôt dans leur bateau, ont pris des pajots. Si la cuisinière est capable, pour les préparer ce n'est pas long. Dès qu'on a les pieds sous la table, on a l'estomac dans les talons. Dans ma petite calanque, au bord de mer sous le ciel bleu. Dans ma petite calanque, vers les midis on mange un peu. La soupe épaisse, une bouillabaisse, les tranches de pain. On se débride, les fiasques se vident, et sous les grands pins, on va dormir un brin. Dans ma petite calanque, au bord de mer sous le ciel bleu. Dans ma petite calanque, coquin de sort qu'on est heureux. Descend dans le vallon à l'horizon, le soleil se fond. Est-ce le pastis ou la chaleur, mais tous les cœurs ont soif de bonheur. Et bientôt dans l'ombre complice, tandis que les vieux font un piquet, de partout les jeunes se glissent, ils préfèrent un jeu moins compliqué. S'en vont sous la lune avec leur béguin. On s'abandonne, parfois l'on se donne, et sous les grands pins monte un bien doux refrain. Dans ma petite calanque, quand la nuit voile le ciel bleu. Dans ma petite calanque, tous les amoureux sont heureux.
Bon, et alors Sylvie, tu as amené l'agenda d'attaque, qu'est-ce qu'on peut y lire?
D'abord, Attaque Pays d'Arles s'est inscrit depuis plusieurs années maintenant dans les commissions consultatives des services publics locaux de la ville d'Arles et de l'AGLO, donc la CCM. Et à ce propos, comme on l'avait évoqué lors de la dernière émission, donc Attaque défendra le retour en régie de l'eau et assainissement sur l'AGLO, là, le 6 novembre, c'est-à-dire demain, au cours de cette commission consultative. Alors, on a rédigé un diaporama à l'attention des élus, qui sera aussi donc visible sur le site d'Attaque Pays d'Arles, parce que la CCM nous a envoyé des documents qui pencheraient plutôt en faveur d'une délégation de service public, donc sur 12 ans, et voilà. Aux côtés d'autres représentants de la société civile, donc on fera bloc à cette commission, et on veut pas que notre eau profite aux marchands d'eau, voilà, c'est aussi simple que ça.
Oui, oui, c'est un gros combat en perspective, ça. Il serait peut-être bon de rappeler aux élus que s'ils siègent en conseil communautaire, c'est qu'ils ont une mission de service public à assurer et qu'effectivement, cela demande du travail et un certain courage politique. Espérons qu'ils sauront entendre la voix de leurs électeurs.
Ouais, c'est un bon rappel, ça. On aura aussi notre réunion mensuelle, donc la plénière d'attaque, le jeudi 13 novembre de 18h30 à 20h30 à la Maison de la Vie Associative sur le boulevard des Lys à Arles. Je rappelle que ces réunions sont libres, publique, ouverte à tous. Et on vous invite aussi à assister au festival Parole Indigo, donc qui aura lieu du 7 au 9 novembre, avec cette année mis à l'honneur le Maroc, la Syrie, le Liban. Le programme est d'ores et déjà sur le site d'Attaque Pays d'Arles, hein, dans la rubrique « Les rendez-vous d'Attaque ». Parmi la programmation, on vous invite tout particulièrement à assister à la table ronde « Approche sensible de la Syrie intérieure-extérieure » avec nos amis de l'UPOP, donc l'Université Populaire du Pays d'Arles. Ce sera le 7 novembre à 18h en salle d'honneur de la mairie.
Et n'oubliez pas non plus de voter avant le 17 novembre pour les prix Pinocchio des Amis de la Terre. Le site prix-pinocchio.org, tout simplement.
Enfin, mardi 2 décembre, hein, last but not least, nous avons programmé du théâtre avec le retour de Fred Dubonnet, pour une pièce désarticulée. Mais où donc est passé Robin des Bois? Fred Dubonnet nous avait enchanté l'an passé avec son one-man show « Le monde ne sait plus sur quel pied danser, faisons-le valser ». Nous l'avons donc réinvité pour le plaisir de nos méninges. Ce sera donc mardi 2 décembre à 20h à l'auditorium de la Maison de la Vie Associative, donc c'est toujours sur le boulevard des Lys et c'est toujours à Arles.
J'aimerais être un chanteur maudit qui resterait à jamais incompris. Je cracherai sur le système, je crèverai dans la misère. Mais ma femme veut pas.
Ah, le moment de la devinette. Alors, Jérôme, qui a dit ? Attention. Les hommes savent très bien détruire, mais ils savent aussi réparer et reconstruire. Il faut donc que l'intelligence humaine l'emporte pour que toutes nos techniques, nos sciences et nos savoir-faire soient mis au service de la défense de la planète.
Bip, 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 tong, ting, tong, non.
Bah, je t'aide, hein. Donc c'est une femme. Elle était alors ministre de l'Environnement dans le gouvernement de Bérégovoy de 1992 à 1993 sous Mitterrand.
Ségolène Royal.
Ouais, ouais, ouais. Donc, elle rentrait du sommet de la Terre de Rio de 92, hein, c'est pour ça. Hein. Donc, mettre nos techniques, nos sciences et nos savoir-faire au service de la défense de la planète, donc ça, c'était avant. Avant que les routiers détruisent les portiques contre l'écotaxe. Hein. De toute façon, l'écotaxe, elle était contre. Hein, et elle trouvait ça coûteux. Alors, bon, c'est vrai que c'est coûteux, puisqu'elle nous laisse quand même une ardoise de 2 milliards d'euros. Hein. Alors je vais citer Roger Mathieu, hein, administrateur à l'ASPAS, Association pour la protection des animaux sauvages, qui à propos des ministres dit ceci. Donc, chacun veillera à soutenir, promouvoir, développer, défendre son ministère. Il existe une exception à cette belle mécanique institutionnelle, le ministre de l'écologie. Son rôle, à lui, est original et précis. Le ministre de l'écologie est là pour veiller à ce que l'écologie ne vienne pas troubler le bon fonctionnement des autres ministres ou autres ministères et que tous les grands lobbies puissent continuer à détruire et polluer en paix. Voilà, bon tact. Ouais. Donc l'émission est terminée. Elle sera rediffusée jeudi 20 novembre à 20h et disponible en podcast sur le site de 3DFM. Il ne nous reste plus qu'à nous dire au revoir et on se retrouve sur les ondes le mercredi 3 décembre. Au revoir Jérôme.
Au revoir Sylvie, au revoir les auditeurs.
C'était Un autre monde possible, le rendez-vous mensuel d'Attaque Pays d'Arles. On se retrouve le mois prochain, le premier mercredi du mois, de 18h10 à 18h40, sur 3DFM. À bientôt!
Bon, voilà. C'est bon.
Bon, c'est bon quand même.